les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Comme chaque mois, les préservatifs de la pensée est une chronique qui vous propose de partir des faits d'actualité pour les éclairer à la lumière de grands philosophes. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un entrefilet qui a attiré mon attention il y a un an. Paradoxalement, parce qu'il n'occupait que quelques lignes. Une femme reconnue coupable d'association de malfaiteurs à dimension terroriste a été déchue de sa nationalité française, nationalité qu'elle avait obtenue lorsqu'elle avait 16 ans. Il m'a semblé étrange qu'une question qui a pourtant marqué le quinquennat de François Hollande, au point de mettre en péril sa majorité en la divisant profondément, ne semble aujourd'hui plus poser de problème aux intellectuels et personnalités politiques qui s'y étaient opposés en 2016. Certains diront qu'il y a une différence, qui peut paraître subtile, mais qui est fondamentale. Il s'agit de l'application de décrets, alors que François Hollande voulait introduire la déchéance de nationalité dans la Constitution française, ce qui lui donnait une autre dimension. En France, effectivement, la déchéance de nationalité peut être décidée en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou en cas de condamnation pour crime terroriste. Elle est prononcée par décret du Premier ministre, ce qui veut dire que c'est une décision politique et non judiciaire. Lorsqu'on comprend que le concept de terroriste est plutôt élastique dans l'histoire des nations modernes, on peut se poser la question des usages possibles de cette déchéance. La déchéance ne rend pas une personne apatride, mais elle ouvre la question de sa possibilité, ce qui est grave, car une frange identitaire et nationaliste du spectre politique français pourrait l'utiliser pour développer son idéologie. Ce sera la thèse de cette chronique. L'apatride, celui qui n'a pas de terre et qui est sans cesse dans l'illégalité, peut être la victime de génocide de la part d'États totalitaires. Bon, cette thèse peut paraître trop radicale, et pourtant, il y a un lien entre la définition de l'État-nation, le totalitarisme, et les drames qui se sont déroulés depuis plus d'un siècle.
Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Le totalitarisme, c'est un État toujours plus présent et surveillant sa population pour vérifier qu'elle adhère à l'idéologie. C'est donc la forme la plus extrême de l'État-nation. Et certains pays prennent à nouveau la route de ce totalitarisme. Certes, la question de la patrie ne date pas d'hier. Aristote, dès le 4e siècle avant notre ère, dans Les Politiques, basait la définition de l'homme comme celui qui est en lien avec une nation. La cité est un fait de nature. Naturellement, l'homme est un animal politique, disait-il. Celui qui reste sauvage par organisation et non par l'effet du hasard est certainement un être dégradé, sans famille, sans loi, sans foyer. Ces lignes célèbres résument la nécessité pour l'homme d'avoir une patrie, car c'est ce qui lui permet d'avoir une identité et des droits. Une vie où nous n'avons pas d'identité, pas de patrie, pas de droits, nous ôte ce qui fait de nous des êtres humains, car il ne nous reste plus à vivre que regroupés dans un camp d'internement qui ressemble à une fourmilière. Apatride, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vous installer. Apatride, vous devenez qu'une âme en peine.
Alors comment peut-on devenir apatride? Il existe de très nombreux cas de figure, en voici quelques-uns. Premier cas, quand les lois d'un pays entrent en contradiction avec les lois d'un autre pays. Exemple, une personne naît dans un pays P1, qui accorde la nationalité d'après l'ascendance, droit du sang. Mais voilà, les parents de cette personne sont ressortissants d'un pays P2, qui lui accorde la nationalité d'après le lieu de naissance, droit du sol. Mais la personne est née dans le pays P1. Résultat, cette personne se trouve apatride. Les autres causes, la mauvaise organisation administrative d'un pays, la naissance n'est pas enregistrée et cela crée des apatrides. L'ONU estime qu'un enfant apatride naît toutes les 10 minutes dans le monde, notamment dans des pays en guerre. La Syrie, par exemple, avec en plus dans le cas de ce pays, des enfants qui naissent lors de la fuite de leurs parents. Il y a aussi des personnes qui deviennent apatrides en raison de la déchéance de leur nationalité.
Tout à chacun a besoin d'une identité liée à une terre, mais pour des raisons idéologiques. Des États peuvent vouloir se débarrasser d'individus, les chasser, quitte à les condamner à l'errance ad vitam aeternam. Aristote lui-même fut presque victime de cette situation. Né en Macédoine, il vint à 17 ans à Athènes pour intégrer l'Académie, l'école de Platon. Il était un métèque.
Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
Aristote n'était pas un apatride, mais il sentit les effets d'être un citoyen de seconde zone. Il comprit ainsi qu'on est dégradé lorsqu'on nous refuse une identité liée à une nation. Combien existe-t-il aujourd'hui d'apatrides ? Le Haut Commissariat aux réfugiés donne le chiffre assez extraordinaire de 10 millions de personnes et souligne le drame de ces individus sans patrie. Je cite « Privés d'identité juridique à la naissance, privés d'accès à l'éducation, aux soins médicaux, au mariage, à l'emploi pendant leur vie et même privés de la dignité d'une sépulture officielle et d'un certificat de décès à leur mort. Beaucoup transmettent l'apatridie à leurs enfants. Une cause importante d'apatride est la discrimination fondée sur la race, l'appartenance ethnique, la religion, la langue ou le genre. Voilà le problème principal. La déchéance de nationalité peut servir une idéologie raciste et xénophobe. Le monde n'est pas débarrassé des vieux démons qui ont servi de moteur au grand génocide du XXe siècle. L'État français cherche, lui, à se protéger des terroristes qu'il pourrait potentiellement avoir élevés en son sein. Mais il ne s'agit pas de lui donner un blanc-seing, car les apatrides, qui sont avant tout des femmes, des enfants, des hommes, sont hors la loi sans avoir violé la moindre loi. Hors la loi car l'État les a catalogués dans une catégorie en utilisant le concept si vague de « terrorisme » ou « ennemi de la nation » ou tout simplement « immigration incontrôlée ». Hors la loi alors que leur seul tort est d'être nés. Le chemin vers la justification des massacres est presque direct. Pour incarner un peu mieux ces destins tragiques, prenons l'exemple d'une des plus célèbres philosophes du siècle dernier, Hannah Arendt. Née en 1906, elle dut quitter l'Allemagne nazie dès 1933. Déchue de sa nationalité allemande en 1938 parce que juive, apatride, elle parvint à migrer aux États-Unis en 1941 et fut naturalisée citoyenne américaine en 1951, après avoir connu la vie d'exilée puis de réfugiée.
En 1933, Heidegger entre au parti nazi.
Quoi ?
Hannah met un terme à leur relation.
Je m'en vais.
Car Hannah, qui passe sa thèse brillamment et obtient une bourse d'études, se rapproche d'une organisation juive qui la charge d'une mission risquée, recueillir des documents prouvant les pratiques antisémites en Allemagne. Arrêtée et interrogée, elle finit par être relâchée.
Ok, je m'en vais.
Elle part pour Paris dès 1933, puis, après avoir été en camp d'internement, rejoint New York en 1941.
Ah, vite !
Mais elle ne parle pas anglais et elle n'a pas avec elle son diplôme de doctorat. Hannah se sort de sa situation précaire en apprenant la langue en quelques semaines et en obtenant un emploi dans une maison d'édition. À la pause déjeuner, le soir et les week-ends, elle trouve le temps d'écrire des articles qui formeront son premier livre, Les origines du totalitarisme en 1951.
Ce destin tragique permit à la philosophe de réfléchir sur le concept d'apatride, né selon elle avec, je cite, « la vieille trinité d'État, peuple, territoire ». L'idée que l'État ancre son droit et sa souveraineté dans le territoire fait qu'il ne veut pas accueillir des, ce qu'il appellerait des corps étrangers, qui viendraient perturber l'équilibre de sa substance, comme s'il y avait une identité fixe des nations.
En France, les Roumains, c'est très marrant. C'est très marrant. Hein. Des mecs sans bras, sans jambes, qui font la manche en plein hiver avec des bébés, c'est super marrant. Hein. C'est vraiment n'importe quel humoriste, il arrive à placer dans son spectacle « Donnez-moi !» Il cartonne, le mec. Hein. Il cartonne. Non, c'est vrai ? En ce moment, parce que c'est les Roumains, en ce moment. Mais il y a une question de temps aussi, de rire sur quoi. Parce que ça, c'est la loi des derniers arrivés sur le territoire.
Il s'agit d'expulser les indésirables. Le camp d'internement devient l'unique terre d'asile. Sans droit, la misère devient le lot quotidien pour l'apatride, qui serait mieux considéré s'il commettait un acte illégal. Un voleur a des droits, celui d'avoir à minima un avocat. Un apatride est un paria sans État. Et ça peut permettre les politiques de génocide. L'État pourra prétendre « un paria ne fait pas partie des citoyens dignes. Il n'est pas pur au regard du droit du sang. Il ne mérite pas de vivre. » Il y a deux exemples historiques de deux pays dont les destins furent à la fois voisins et si différents. La Roumanie et la Pologne, pour illustrer cette situation de l'apatride. L'indépendance de la Roumanie, dès 1866, rendit les Juifs apatrides pour mieux fonder l'identité orthodoxe du pays. Le pays avait des frontières naturelles, entre autres les Carpates, qui lui permettaient de penser son territoire. A l'inverse, la Pologne n'a jamais eu de frontières naturelles et fut en vie tout au long de son histoire, allant même jusqu'à disparaître totalement entre 1795 et 1918. Les grands génies polonais, Chopin par exemple, ont tous connu l'exil et donc l'identité polonaise ne s'est pas construite sur la défense d'un territoire. Du coup, il n'y a jamais eu d'apatrides juifs en Pologne. Et les massacres de la Seconde Guerre mondiale furent le fait de l'occupant. Contrairement à la Roumanie, qui devint un État satellite de l'Allemagne et pratiqua sa propre politique antisémite. Il est certain qu'il ne faut pas faire une relation de cause à effet systématique entre les génocides et la réalité des États-nations. Néanmoins, c'est une interprétation possible. C'est peut-être la raison pour laquelle le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale en 2016 est important. Si le Premier ministre de l'époque a pu évoquer Ernest Renan, philosophe français du XIXe siècle, célèbre pour son discours « Qu'est-ce que la nation ?», en déclarant, y citer, deux points, « Être français, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est partager nos valeurs d'égalité, d'ouverture, de tolérance. C'est une envie de construire l'avenir ensemble. » Mais un des membres de la majorité du Premier ministre lui rappela que le gouvernement qui utilisa le plus cette option fut le régime de Vichy. Régime qui rangeait dans les catégories de terroristes, d'indignité nationale, des personnes qui furent ensuite reconnues comme des héros ou comme des victimes, jamais comme des ennemis de la France. La question des apatrides qui touche 10 millions de personnes regroupe donc deux problèmes, celui de la dignité des individus, mais aussi celui de la définition des ennemis de la nation. L'histoire est faite de violence, d'injustice et de reconstruction qui nous amène à oublier ces proscrits. L'honneur de la modernité serait de bannir le concept d'apatride. Ernest Renan, le philosophe français du XIXe siècle, donna cette définition de la nation. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Une nation est donc une grande solidarité. L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d'hommes crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Le sentiment de citoyenneté n'est pas aussi simple ni spontané, mais il faut retenir un point important. Ce n'est pas uniquement la langue, la religion ou les montagnes qui font un peuple et une nation. C'est une conscience commune. Cette jeune femme qui se vit privée de sa nationalité française n'est pas apatride. Mais ça ne retire rien au fait que la déchéance de nationalité est un outil politique pour désigner l'ennemi de l'État. Ce qui, en cette période où les nationalismes sont de plus en plus décomplexés, peut se révéler être une porte ouverte vers de nouvelles formes de discrimination religieuse ou raciale. Une arme à double tranchant. Merci RPH Sud et Radio Pays des Raux d'avoir permis la réalisation de cette chronique, tout particulièrement Solène pour la prise de son et la technique, ainsi que Samuel pour le montage. Vous pouvez retrouver ces chroniques publiées aux éditions BOD sous le titre « Chronique par mon et par vous ». Mais en attendant, je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.
surtout ne te